La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Recevoir chaque mois dans sa boîte aux lettres une box pour pouvoir cultiver ses plantes, ses tomates et le tout bio bien sûr, c'est possible grâce à votre solution du jour Elisabeth. Ça s'appelle Mon Petit Coin Vert.
Et oui, savez-vous que 63% des Français possèdent un jardin privé ou partagé ? Nous ne faisons pas partie, mais non. Ce sont pourtant les chiffres d'une étude IFOP pour l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage. Les Français adorent faire pousser des légumes pour mieux manger, tout simplement, et aussi pour que chacun, à son échelle, œuvre à la protection de la planète. Et c'est comme ça qu'est né aussi Mon Petit Coin Vert à Roubaix. C'est une start-up qui existe depuis 2018. 4 personnes y travaillent. Elle permet à ceux qui n'y connaissent rien, comme beaucoup d'entre nous en jardinage, d'apprendre comment cultiver ces légumes. Bonjour Robin Morvan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Mon Petit Coin Vert. L'aventure, elle a démarré sur un balcon et vous étiez avec votre compagne, c'est ça?
Oui, exactement. L'aventure a démarré sur un balcon. On jardinait tout simplement, comme de nombreux couples. Et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas transmettre notre passion pour le jardinage et faire quelque chose d'un petit peu plus ludique que ce qui est proposé via des petits magazines de jardinage, et faire quelque chose de très visuel, de très accessible, et permettre à toutes ces personnes qui ont envie de cultiver leurs légumes, leurs aromates, de le faire simplement avec des ateliers pratiques.
Alors, des ateliers pratiques, ça se transforme en box, c'est une box que l'on reçoit chaque mois pour 12,90 €. Comment ça marche, Mon Petit Coin Vert?
Alors, Mon Petit Coin Vert, c'est effectivement une box qu'on reçoit directement dans sa boîte aux lettres, et qui contient toujours la même trame. Donc, on va avoir 2 sachets de graines bio certifiés AB par EcoCert, qui sont adaptés à son environnement, c'est important. Un petit livret où on apprend à savoir d'où viennent
sa variété. Un joli livret en plus, un joli petit livret que Raphaël Cheuillette
en ce moment. Je suis en train de tout connaître sur la tomate ondine cornue.
Voilà, donc des variétés qui sont aussi originales, parce que le but c'est de surprendre un petit peu nos jardiniers. Du terreau compressé pour faire ses semis dès qu'on reçoit sa box. Et enfin une petite surprise horticole, parce que le but de la box c'est vraiment de proposer une ouverture sur le jardinage, de permettre de développer ses connaissances dans le monde végétal. Et donc la petite surprise nous permet aussi de comprendre pourquoi on vous propose de l'engrais, pourquoi c'est important l'engrais pour les plantes, et d'ouvrir le champ des connaissances dans le végétal.
Justement, c'est ça qui nous a interpellés, parce que des box qui nous livrent des pousses, ça existe, on a prêt à pousser qu'on a reçu, ça existe. Mais vous, ce qui nous a aussi interpellés, c'est que ce sont des produits aussi un peu originaux. Là, il y a Raphaël qui regardait les tomates
andine cornue.
On peut même cultiver, je crois, ces graines de chia. Enfin, vous avez passé une étape là-dessus.
Alors, le parti pris, effectivement, c'est vraiment de proposer des variétés qui sont originales. Par exemple, en fin 2019, on a proposé à nos abonnés de faire pousser du safran, du crocus à safran.
C'est
possible et c'est pas compliqué. Il y a des cultures en France qui existent encore et donc c'est une expérience assez ludique et à chaque fois on va chercher comme ça, dénicher des variétés qui sont originales, du poivron par exemple, chocolate belle, donc en couleur chocolat, même s'il n'a pas le goût, heureusement. Mais il y a plein de variétés qui sont fascinantes et notre but c'est justement de les mettre en valeur et de permettre à nos jardiniers d'apprendre à les cultiver.
Celle qui est avec nous, c'est la boîte de février, la box de février, c'est ça? Et à chaque fin de carnet, il y a le programme du mois suivant, parce
exactement,
que ça suit évidemment les saisons.
Exactement, tout à fait. Les variétés qu'on reçoit donc, sont adaptées à la saison. Au moment où on les reçoit, on peut les semer. Donc on a une contrainte un petit peu de moins à prendre en compte, à savoir qu'est-ce que je peux semer à cette période de l'année. Nous, toutes les variétés qui sont reçues peuvent être semées à ce moment-là.
Catherine?
Alors moi, je passe mon temps à dire à mon entourage que non, on n'a pas ou on a la main verte. En l'occurrence, c'est juste qu'il faut suivre des méthodologies comme on suit une recette, en l'occurrence. J'aime beaucoup cette idée d'apprentissage parce que comme on est beaucoup déconnecté de la nature, surtout quand on habite en ville, vous redonnez ce goût en fait de l'apprentissage de la culture, en l'occurrence. Est-ce qu'on peut choisir ce qu'on a envie de cultiver, par exemple, à manger ou des aromates?
Vous pensez à quelque chose, là, Catherine, j'ai l'impression.
De graines et autres.
Alors, le parti pris, c'est effectivement une notion pédagogique forte. On va vous permettre d'apprendre, que ce soit à travers la box, à travers notre compte Instagram, Facebook. Vous allez apprendre pourquoi les herbes aromatiques sentent si bon, comment des champignons et des racines de plantes collaborent entre elles. Et pour répondre à votre question, donc on a la possibilité de personnaliser l'abonnement et de préciser moi, j'ai tel environnement et du coup, si j'ai concrètement un rebord de fenêtre, je ne vais pas recevoir des courges qui demanderaient trop de place. Je reçois plutôt des aromatiques, plutôt des mini-légumes Et on n'a pas la possibilité, en revanche, de dire « moi, je veux à tout prix, le mois prochain, des tomates cerises ». Ça, c'est le parti pris, c'est de la découverte, c'est de la surprise, effectivement.
Combien d'abonnés depuis 2018 ?
Alors, on est aujourd'hui à 1500 abonnés. C'est une activité qui est très cyclique, en fait, parce que c'est beaucoup de cadeaux aussi. Donc, on a énormément de cartes cadeaux de personnes qui ont envie d'offrir un abonnement de 3 mois, 6 mois pour apprendre à quelqu'un à jardiner. Donc, beaucoup de ventes en décembre et donc beaucoup d'abonnés au printemps, parce que les personnes activent leurs cartes cadeaux à ce moment-là. Donc, on est à 1500 abonnés et 2000 abonnés d'ici le printemps prochain.
Je précise que la box est en carton et que vous avez tout travaillé parce que pour pouvoir identifier les pousses, vous avez mis des petits morceaux d'ardoise, enfin des petits morceaux, des gros morceaux même, d'ardoise. C'est un parti pris, ça aussi. On est sur quelque chose de naturel.
On est sur quelque chose de naturel. Effectivement, pour nous, c'était une condition. C'est sans réfléchir, en fait. On est parti dans du quasi zéro déchet.
Et on écrit à la craie dessus.
Et ça, c'est la surprise du mois. Et donc, ça change effectivement tous les mois.
Ah, donc, ce ne sera pas forcément ça. Il faut qu'on s'abonne, hein, Raphaël.
Il faut qu'on s'abonne. Ouais.
Vous êtes présent partout en France ?
On est présent partout en France et en Europe. Donc, on a un certain nombre de Français qui sont à l'étranger, qui sont abonnés.
Mais comment ils vous ont connu ? Via les réseaux ou vous êtes distribué
On est via les réseaux sociaux, j'imagine, et principalement sur Internet. Sur le site internet de monpetitcoinvert.com. Et après, peut-être le bouche à oreille. On n'a pas identifié la cause des abonnements à l'étranger. Mais
mais c'est en train de fleurir.
Exactement.
Mon petit coin vert, c'est la solution pour devenir jardinier. Merci d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Il est midi 58.
Europe 1.
À moins de 15 jours du premier tour des élections municipales, on vous dit tout sur la stratégie digitale, celle à notre service, nous les électeurs, celle aussi au service des candidats. C'est La France Bouge. À tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France Bouge avec BNP Paribas.
Europe 1.
Midi 14h.
La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France Bouge. Si vous nous rejoignez, si vous savez qu'on aime voir la société évoluer, être à l'écoute de tout ce qui est en mouvement et ceux qui ont leur carte d'électeur depuis un certain nombre d'années, comme moi, ont vu que ça avait pas mal bougé hein, quand on doit aller voter, notamment sous l'impulsion du digital. Bonjour Gauthier Schweitzer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de l'association Isegoria. Vous avez créé le site municipal.app qui indexe en fait les programmes des candidats dans les plus grandes villes de France. Tout a démarré en fait pour vous avec le hackathon qui a été lancé à l'occasion du grand débat. On est en mars 2019.
Exactement, c'est l'Assemblée qui a fait un appel aux citoyens pour qu'ils se saisissent de ces données et qu'ils proposent des alternatives aux restitutions officielles avec des angles différents ou avec une approche un peu original. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'Antoine France et moi-même, on s'est proposé, on a monté une équipe citoyenne et on a proposé un moteur de recherche à l'Assemblée nationale. Donc on pouvait explorer les contributions thème par thème et localité par localité.
L'idée c'était quoi ? C'était justement que les citoyens finalement se réapproprient un petit peu les analyses qui pouvaient être faites ?
Totalement, les citoyens, les élus, les ministères, les administrations. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de Français qui ont fait l'effort de participer à ce grand débat, de dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Et on s'est dit que nous qui avions des outils techniques pour donner un écho à cette parole, c'était notre mission de le faire.
Du coup, vous avez créé une première application, démocratie.app, et puis une seconde, la plateforme municipale.app, parce que vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, plus en proximité, finalement ?
Exactement, plus en proximité, poursuivre le débat qui a été lancé, mais cette fois dans un cadre qui soit moins normé qu'à l'occasion du grand débat, puisque cette fois, c'est pas le gouvernement qui pose les questions, mais c'est vraiment les candidats qui font leurs propositions. Et nous qui sommes passionnés de politique, on avait du mal dans cette jungle médiatique où les candidats prenaient position sur les plateaux, dans les journaux, sur leur site de campagne. On avait du mal, même nous, à se repérer dans les différents programmes. Donc on s'est dit, fondons une association et essayons d'aller récolter toutes les propositions qu'on trouve, mettons-les en commun sur une plateforme et proposons aux citoyens d'explorer ces programmes, de choisir ceux qui leur correspondent le mieux et de donner leur avis.
Donc, vous êtes allé dans les 5 grandes villes de France.
Bientôt
alors,
6.
Il y a Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et Paris.
Exactement.
Bien sûr. La 6e, ce sera
bientôt Toulouse.
Bientôt Toulouse. Et on peut voir sur municipal.app la totalité des programmes, mais aussi tout ce que les candidats déclarent au fur et à mesure qu'ils le déclarent.
On peut voir la totalité des programmes, de l'ensemble des propositions, qu'elles soient sur leur site de campagne ou qu'elles soient issues de prises de parole dans les médias, exactement.
Donc à chaque fois, vous venez ajouter des interviews, télé, radio, pour aussi permettre finalement à ceux qui vont aller se connecter de voir s'il y a une différence entre ce qui est écrit sur le programme papier et puis ce qui a été déclaré.
On vient compléter la source avec la prise de position, en général la plus récente ou la plus complexe. Et donc chaque membre de l'association a plusieurs candidats à surveiller. Donc c'est sa mission d'essayer de suivre l'ensemble de ces prises de position et toujours dans un effort de transparence puisque toutes les propositions sont surveillées entre guillemets par un comité qu'on a mis en place en interne pour éviter les biais individuels.
Ça veut dire que si je veux savoir précisément, par exemple, ce que font les candidats dans ma ville sur la question des cantines scolaires, je peux.
Exactement.
Je tape un mot-clé.
Il y a un sous-thème cantine scolaire. Vous le regarderez et vous verrez que plusieurs candidats ont fait des propositions sur le sujet. Vous pouvez les comparer, filtrer par candidat, choisir les propositions que vous approuvez, celles que vous désapprouvez et mettre un commentaire.
Catherine Testa, notre coach.
Alors, je trouve ça incroyable parce que je me rappelle de ce hackathon qui avait été organisé. Et je ne m'étais jamais posé la question de quelle était la conséquence, en fait. Vous allez engranger beaucoup de data aujourd'hui. Vous parliez un peu d'un débat. Est-ce que les gens peuvent débattre autour de ces propositions? Comment ça se passe? Parce que sinon, on compare deux programmes. Comment ça se passe?
Ils peuvent débattre proposition par proposition. Donc, quand ils choisissent d'approuver ou désapprouver une proposition sur un sujet, ils peuvent donner leur avis en même temps. Okay. Et en même temps, il y a un autre espace de débat dédié, donc basé sur la plateforme Twitch, et qui permet d'organiser un vrai débat libre entre les utilisateurs de la plateforme.
Et ça s'autorégule?
Ça s'auto-régule, oui et non. Disons qu'on a des modérateurs quand même pour vérifier qu'on reste dans le cadre de la loi, bien sûr.
Elisabeth, dans le cadre de ces élections municipales, il existe d'autres sites internet qui sont spécialement conçus pour connaître davantage les élus et leurs programmes.
Oui, et même des sites internet où vous pouvez contacter les élus. Par exemple, pour Polypart, c'est le cas. Il permet d'accéder à tous nos élus dans toutes les régions. Vous pouvez aussi les contacter. Vous avez aussi l'application Citoyen qui propose plus de 200 statistiques sur des thèmes autour de la politique. C'est une plateforme ce sont des contributeurs qui l'alimentent, mais seules les données officielles, les données du gouvernement ou des institutions sont utilisées pour pouvoir contribuer.
Vous avez dit qu'il y avait 5 villes, 6 bientôt. Vous avez combien de références possibles à l'intérieur de cette plateforme? Combien d'onglets on peut renseigner?
C'est-à-dire
Par exemple, je prenais l'exemple des cantines tout à l'heure. Oui. Je peux me renseigner sur à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur du programme.
Totalement. On a des sous-thèmes qu'on a organisés pour...
Mais comment vous avez fait?
Avec beaucoup de travail humain. Hein. C'est-à-dire qu'on a lu des centaines de propositions et qu'on a essayé de... On s'est basé aussi sur, bien sûr, ce que les médias avaient fait aux élections précédentes. Et on a dessiné une petite trentaine de sous-thèmes pour permettre d'avoir cette comparaison.
Alors, ça bouge au niveau des cantines?
Ça bouge au niveau des cantines, notamment sur le bio, c'est certainement une bonne chose. Et en même temps, on a un moteur de recherche qui permet vraiment d'explorer mot par mot les contributions et de choisir vraiment celles qui vont correspondre à vos centres d'intérêt à vous.
On reste ensemble et on continue à parler élections aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h17.
Europe 1.
Et vous allez voir que c'est en s'inspirant de la campagne d'un certain Barack Obama qu'est né Digital Box. A tout de suite sur Europe 1.
Dans la France bouge cet après-midi, à l'approche des municipales, on parle des moyens technologiques, digitales, au service des élections, des électeurs. Vous êtes sensible à tous ces moyens mis en place pour vous aider à y voir plus clair? Dites-le nous via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Quand on vit aux États-Unis, on regarde ce qui s'y fait, et c'est en suivant la campagne d'un certain Barack Obama qu'est né le projet Digital Box. Bonjour Vincent Monceny.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À l'époque, vous viviez là-bas, aux États-Unis. On est en 2011. Et vous vous apercevez qu'il y a une première plateforme de big data politique qui est en train de sortir. Alors on va peut-être déjà commencer par expliquer ce qu'est le big data pour les auditeurs qui nous écoutent et est-ce que ça a changé aussi?
C'est une plateforme qui permet effectivement d'organiser des communautés, qui permet d'organiser des communautés de militants et qui permet aussi d'organiser les communications avec les électeurs, in fine. Et effectivement, donc, j'étais expatrié, j'ai vécu en Californie 2 ans, j'ai vécu au Canada 3 ans. Et entre 2006 et 2011, on voit la communication politique changer. La vérité, c'est que toute la communication tout secteur confondu, a changé. Vous l'avez vu dans vos métiers aussi.
Bien sûr.
Les auditeurs s'en sont rendus compte aussi. Et effectivement, la communication politique a commencé à être impactée avec la première campagne de Barack Obama qui était en 2008. En 2008, ils sont encore à un stade artisanal où effectivement, c'est la première campagne présidentielle où l'on peut constater qu'il y a une utilisation efficace des réseaux sociaux. Et en 2012, effectivement, entre 2008 et 2012, il y a beaucoup de travail qui a été fait, pas seulement dans la communication politique, dans les autres secteurs, je viens de le rappeler. Et c'est effectivement entre 2008 et 2012 que sont nés les premiers outils d'organisation de communauté. Donc pour effectivement organiser les militants et effectivement pouvoir communiquer avec les électeurs sympathisants derrière.
Donc vous vous dites qu'il faut absolument qu'on duplique finalement le modèle chez nous en France ?
Dupliquer, alors...
Qu'on importe et qu'on l'améliore.
Voilà. Si vous dites dupliquer, je vais avoir des soucis avec mon avocat derrière. Mais ce que l'on a fait plus
on fait
plus
toujours les choses en mieux ici,
c'est qu'il a fallu, quand on est parti, nous en fait, on commence à travailler en 2010-2011. On part en même temps que nos concurrents. Vous voyez par exemple l'outil qui a été utilisé par Obama. Donc le premier outil, c'était en 2012. Donc on est parti exactement au même moment. Nous, on a créé la société en 2013 et effectivement, on s'est dit, bon voilà, ça y est, on est de retour en France, il faut que l'on ait un outil qui corresponde à la communication politique française, qui n'a rien à voir avec la communication politique américaine.
Comment vous avez fait justement pour que ça soit le bon outil qui corresponde à la classe politique aujourd'hui?
Il fallait déjà répondre aux exigences légales. Effectivement, vous le savez, les Américains ont une communication politique qui leur permet de travailler sur des critères de race et de religion. Bon, déjà, ça, on retire. En France, il n'en est pas question. Grand bien leur fasse chez eux, si ça les intéresse de travailler comme ça, ils font ce qu'ils veulent. En France, on sait que ça n'arrivera pas. Ensuite, il y avait aussi la question de développer un outil qui corresponde aux équipes de campagne françaises, qui sont très, très différentes. Aux États-Unis, vous pouvez avoir des effectifs pléthorique. Dans une campagne municipale, dans une campagne législative, sénatoriale, il n'est pas rare d'avoir des collaborateurs salariés. En France, la réalité d'une campagne, c'est que vous ne travaillez qu'avec des bénévoles. Ils sont militants. Il est hors de question d'avoir des gens salariés. Les comptes de campagne ne le permettent pas. Pour rappeler l'ordre de grandeur, une campagne présidentielle aux US, c'est 1 milliard de dollars. En France, on est à 21 millions. Si on dépasse un petit peu, on a des problèmes.
Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez, vous, leur permettre d'aller chercher comme information, justement, avec ce logiciel?
Le premier but, c'est qu'est-ce qu'on fait et à quoi on sert, déjà,
à collecter des informations.
Pourquoi les élus, effectivement, vont faire appel à nous, déjà, pour reprendre contact avec leurs électeurs, être capable de les informer. C'est la première mission. Derrière, une fois qu'ils sont informés, on va essayer de les mobiliser pour les faire voter.
C'est-à-dire qu'on va leur envoyer des emails, on va récupérer des numéros de téléphone.
Des emails, des courriers papier, du SMS, du porte-à-porte, c'est aussi du contact, le tout venant dans la rue, sur les marchés. Donc la première mission pour les élus, déjà, c'est d'informer ce qu'ils vont faire au quotidien. Là, on parle des campagnes parce qu'on est en pleine municipale, mais au cours d'un mandat qui dure 6 ans, il faut aussi informer les électeurs au quotidien. C'est l'un des plus gros challenges aujourd'hui. Un élu, pour faire savoir à la population, c'est très compliqué. Il a très peu de moyens. Là, j'ai des élus qui me disent, ils me le disaient déjà en 2014, c'est vrai dans certains coins, ils disent que c'est la première campagne qu'on fait sans la presse quotidienne régionale. Alors, en Ile-de-France, on ne s'en rend pas trop compte parce que le Parisien reste fort. Dans certaines régions, bon, vous avez encore la Provence, mais il y a vraiment des zones blanches de presse quotidienne régionale. Comment vous faites une campagne municipale quand la presse quotidienne régionale a des problèmes?
Avec le digital?
Voilà, en partie. Avec le digital, toujours couplé à une campagne de terrain. Si vous retirez le terrain, vous aurez des problèmes sur les résultats après. Mais effectivement, la première mission, c'est de pouvoir informer les électeurs d'une élection.
Donc vous voulez remplacer la presse et les instituts de sondage?
Alors, un mix. On n'est pas si ambitieux que ça.
Non, mais c'est un mix
des
deux.
On va être beaucoup plus humble, mais... Effectivement, quand un élu, moi j'en ai encore vu la semaine dernière.
Vous avez 200 candidats utilisent votre logiciel. Donc ça,
200
ça commence
candidats dans toute la France, donc on n'a pas que des candidats parisiens. À Paris, Lyon, Marseille, encore Lyon c'est contestable sur la presse quotidienne régionale. Mais voilà, vous pouvez vous retrouver dans une zone blanche où la presse est affaiblie, où elle a quasiment disparu. Donc là, l'élu doit devenir, c'est lui en fait qui va devenir son propre média. Ce n'est pas nous qui remplaçons les médias. On va rester...
C'est un clin d'œil.
Catherine Testa.
Alors je suis un peu affolée parce que ça veut dire que c'est la data. C'est à qui elle appartient cette data? Comment vous avez maillé le territoire? Et les élections présidentielles, ça veut dire que ça va se gagner en fonction de la data qu'on a et notre capacité finalement à communiquer avec le citoyen?
Heureusement non. Donc déjà, pour répondre à la première question,
RGPD,
à qui appartiennent les données? Les données appartiennent aux élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on leur donne l'outil qu'ils viennent d'acheter, il est vide. C'est leur carnet d'adresses à eux qu'ils vont utiliser. Ce sont leurs propres données. Donc effectivement, ils en sont propriétaires. Dans le cadre des obligations du RGPD, les données appartiennent aux élus. Les données, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, c'est un carnet d'adresses. Le but du jeu, c'est que l'élu puisse communiquer avec ses électeurs. Et croyez-moi, c'est un challenge au quotidien pour les élus. C'est vraiment très, très difficile. Les mandats d'élus sont déjà très difficiles, de plus en plus techniques, administratifs. Vous en parlez très, très souvent. Et en plus, quand vous avez réussi à faire des bonnes choses pendant votre mandat, quand vous avez eu la chance d'avoir des succès, des réussites, derrière, il faut le faire savoir. Parce que si vous avez fait des choses très bien dans votre coin et que vous avez 10% de vos électeurs qui sont au courant, vous allez avoir un problème pendant les élections.
Elisabeth, puisqu'on parlait RGPD, je crois que la CNIL, justement, appelle à la vigilance sur tout ce qu'on met à l'intérieur des fameuses Civic Tech aujourd'hui.
Complètement. La CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a publié, là, en décembre, un document qui incite à construire des modèles vertueux, je les cite, de technologie civique. Donc, elle invite les acteurs à penser donc ces outils respectueux de la vie privée dès la conception, en privilégiant une information claire sur le déroulé de la consultation et les droits des utilisateurs. La CNIL cite deux exemples. Par exemple, le choix des organisateurs de demander aux participants uniquement leur code postal a empêché toute authentification et a conduit à une instrumentalisation de la consultation par des groupes d'intérêt. Et ça, ils en ont plein. Ils ont donné plein d'exemples de ce type-là.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit la CNIL aujourd'hui ? Peut-être pas assez bordé les choses en amont ?
La CNIL a abordé les choses depuis très longtemps. On vient de parler du RGPD. Bon, le RGPD, c'est récent.
Bien sûr.
La chance que l'on avait en France, c'est qu'on avait la CNIL. Ce n'était pas le cas de tous les pays européens. La CNIL encadre depuis très longtemps. Concernant les Civic Tech, ils encadrent depuis très longtemps le secteur. Nous-mêmes, dès 2016, par exemple, on a déjà été audité par la CNIL. Donc, la CNIL a toujours rassemblé les acteurs de la Civic Tech.
Parce qu'il y en a de plus en plus aussi.
Il y en a plus qu'avant, on peut s'en réjouir. Mais c'est très encadré. Vous voyez, par exemple, la simple notion de consentement. Vous ne pouvez écrire à un électeur que s'il vous a donné son consentement. Ça met les choses au clair. Ça veut dire que si vous n'avez pas le consentement, vous n'écrivez pas à cet électeur.
On reste ensemble et on continue à parler élections, justement, et outils pour ces élections municipales. À tout de suite.
Il est 13h28.
Europe 1.
Comment mobiliser les abstentionnistes, intéresser les électeurs ? C'est une partie du travail que fait la société Polygma du côté de Montpellier. À tout de suite. Europe 1.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas. Et dans La France bouge cet après-midi, on parle de stratégie digitale au service des élections et des électeurs avec les innovations de nos invités. Vous y êtes sensible ? Dites-le nous. Envoyez-nous un message sur Twitter, hashtag Europe 1 ou appelez-nous au 3921 Raphaël.
Vous avez sûrement déjà au marché réceptionné les tracts des candidats le samedi matin, mais combien d'entre vous les lisent vraiment ? Avouez, ils finissent souvent au fond du sac ou parfois même de la poubelle que vous croisez juste après. Et pourtant, ce qui est écrit dessus est peut-être ce qui va être appliqué finalement dans les mois et les années qui viennent dans votre ville. Bonjour Stéphane Boisson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et cofondateur de Polygma. Vous êtes basé à Montpellier. Vous avez monté votre entreprise en 2015 parce qu'à l'époque, vous vous êtes aperçu qu'il y avait justement un problème entre la politique avec un grand P, j'ai envie de dire, et les territoires. Vous avez donc essayé de construire une réponse, c'était ça l'idée ?
Exactement. Une réponse qui est basée à la fois sur les données, pour la compréhension de ces territoires, le diagnostic de ces territoires, et en faire une analyse pertinente parce que ces quartiers, ces villes bougent très vite, et comprendre ce qui se passe sur un territoire nécessite les meilleures données.
Ça signifie qu'il faut d'abord diagnostiquer, entre guillemets, le territoire ?
Exactement. Je prends des villes, par exemple, de moyenne importance, qui aujourd'hui, une partie de la population part en périphérie, d'autres, des quartiers qui se construisent très très vite, d'autres des quartiers qui périclitent. Il faut comprendre que ces territoires-là, pour mieux les comprendre aujourd'hui, on a besoin des données de la CAF, de Pôle emploi, des données INSEE. Toutes ces données sont disponibles. Le problème, c'est le temps et la façon de pouvoir les traiter. Donc, si je construis le bon diagnostic aujourd'hui dans le cadre d'une campagne électorale ou dans le cadre d'un mandat, ça va me permettre d'apporter les bonnes réponses. D'être capable d'apporter ces bonnes réponses, dans le cas d'un mandat, c'est faciliter la vie de chacun des citoyens dans une ville. C'est de leur permettre effectivement de comprendre que sur un territoire aujourd'hui, on va construire une école, on va construire telle ou telle infrastructure publique parce qu'on l'a anticipé aujourd'hui grâce aux données de la population, grâce aux données de transformation de ces territoires-là.
Donc ça signifie que vous allez dans chaque quartier, identifier les besoins, faire remonter finalement du terrain ce qui est nécessaire en allant au contact de la population.
Alors on fait mieux que ça. En fait, on centralise des données qui sont disponibles aujourd'hui en open data pour la totalité de la population. Dans notre solution, par exemple, on dispose de 400 variables à l'échelle de chacun des quartiers.
Par
sur
exemple,
toutes
c'est
les
quoi
villes.
Une variable ?
Alors une variable. Je prends un exemple simple. La durée d'ancienneté de résidence des ménages dans un quartier. On sait très bien que l'implication des individus dans le champ politique est étroitement liée à leur ancienneté de résidence. Je vais m'intéresser à l'élection beaucoup plus si je réside depuis très longtemps sur ce territoire-là. Beaucoup moins évidemment, en termes de participation électorale et d'inscription électorale, quand je viens d'arriver dans un quartier. La taille des ménages, le nombre de familles monoparentales. Est-ce que ces familles monoparentales sont plutôt des femmes célibataires avec des enfants, ou est-ce que j'ai plutôt affaire à des familles monoparentales différentes, par exemple avec un peu plus d'hommes que de femmes, selon les profils.
Ça va changer les besoins du territoire en question.
Exactement. Si vous êtes capable d'anticiper à quoi ressemble cette population sur un territoire, vous êtes capable de pouvoir trouver les bonnes réponses au bon moment pour un maire dans une commune, pour un député par exemple sur la mise en place d'un certain nombre d'éléments sur sa circonscription, et être capable de répondre pour une communauté plus importante, une métropole, je prends Montpellier, je prends Toulouse, ou une région, la région Occitanie, vous allez être capable de comprendre ce qui se passe sur les compétences territoriales de ces collectivités.
Du coup, on est sur du programme à la carte, en quelque sorte, ou personnalisé ?
Personnalisé,
presque,
parce qu'en fait, on va être capable, sur chaque partie d'un territoire, de comprendre de manière fine, quand vous multipliez ces variables-là, vous allez pouvoir faire autant de croisements possibles pour diagnostiquer de façon efficace à la fois ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai des quartiers, par exemple, si on croise population active occupée et le nombre de chômeurs, j'ai des populations qui sont parfois très dynamiques en termes d'emploi, mais qui peuvent en même temps avoir une partie de la population qui sont touchées par le chômage. Je ne vais pas le reléguer à un quartier parce que j'ai cette incapacité à lire ce qui se passe sur ce quartier. Je vais au contraire être capable d'avoir une lecture très fine de ce qui se passe sur un territoire pour mieux comprendre évidemment les enjeux et les stratégies à mettre en place en termes de politique publique.
Mais alors,
derrière, on fait le lien avec les électeurs en plus.
Du coup, est-ce que le candidat va s'en servir entre guillemets comme d'une arme, pardonnez-moi, pour attirer les électeurs, ou vraiment comme des données qui vont aller chambouler véritablement son discours et faire changer les choses?
Alors moi, je vais vous raconter une anecdote récente, puisqu'elle date il y a quelques mois. J'ai quelqu'un qui est le maire d'une grande commune qui a une vision très claire de son territoire, qui me dit « moi, j'ai pas besoin d'une solution pour comprendre mon territoire ». Je dis avec grand plaisir « accordez-moi 5 minutes ». Et on regarde son territoire à travers la solution. Et là, au fur et à mesure qu'on déroule les différents éléments quantitatifs et la connaissance de son territoire, cette cartographie précise, quartier par quartier, au bout d'un moment, il me dit « écoutez, en fait, depuis tout à l'heure, vous me montrez des choses. J'avais des intuitions qui étaient bonnes sur pas mal de points, mais là, vous me pointez du doigt des choses qui m'avaient complètement échappé. »
Il y avait quoi, par exemple ?
L'appauvrissement d'un quartier, par exemple, assez fort sur la réduction du nombre de ménages fiscalisés, par exemple, et l'augmentation du taux de pauvreté sur ce quartier. Et il n'avait pas encore perçu cet élément-là, alors que cet élément-là était déjà dans les données, en fait.
Catherine, notre coach.
Alors, vous parlez d'open data tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que, du coup, cette donnée, elle est disponible à tous les candidats potentiels ? Est-ce que tout candidat peut aller regarder ce qui se passe, en fait,
alors,
sur le territoire ?
Tout candidat peut aller sur le site de l'INSEE, sur le site de la CAF, de Pôle emploi, des données Sirène, de toutes les données qui sont disponibles en open data. Le problème, c'est que...
Votre force à vous, c'est que vous les croisez.
Notre force à nous, c'est qu'en fait, on en fait un outil d'aide à la décision. Pourquoi ? Parce qu'on va à la fois cartographier, data visualiser et surtout faire des croisements qui sont pertinents. On apporte une couche de connaissance, en fait.
Bien sûr.
Une véritable couche de connaissance sur la donnée et derrière, sur cet outil d'aide à la décision, en fait.
Et le ticket d'entrée, du coup, pour...
Alors, en fait, ça dépend de la population légale. En fait, on commence à 16 centimes pour une campagne électorale par habitant en population légale, beaucoup moins pour une collectivité territoriale. Et après, il y a un abonnement tous les mois pour l'usage de la solution.
Elisabeth, faciliter le lien entre les élus locaux et les citoyens, je crois que vous avez trouvé une start-up qui fait ça aussi.
Ça s'appelle FluCity, oui. Cette start-up, ce sont des sondages, des appels à idées, des enquêtes de projets participatifs. D'ailleurs, FluCity a été sollicité par l'Association des maires ruraux de France pour lancer une opération qui appelle tous les maires ruraux de France à ouvrir leur mairie le week-end pour recueillir les doléances de chaque citoyen. Et ils ont aussi travaillé sur un rapport d'activité qu'ils ont rendu à l'Élysée ainsi qu'à l'Assemblée nationale, FluCity.
On reste ensemble et on continue à parler élections aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et on attend vos questions, bien sûr, au 39-21 et sur Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. A tout de suite.
Dans la France bouge cet après-midi, on parle des civic tech, les technologies civiques au service des élections, des électeurs, et on en parle, Raphaël, avec vos invités.
Nos invités, Vincent Mansoni, cofondateur de Digital Box, Stéphane Boisson, cofondateur de Polygma, et Gauthier Schweitzer, cofondateur de l'association Isegoria, qui a créé municipal.app. Notre coach aujourd'hui, c'est Catherine Testa, fondatrice de l'optimisme.com et du club des Chief Happiness Officers, bien sûr, à mes côtés, Elisabeth Assaïg. On va peut-être redonner tout simplement la définition. Elisabeth, des civic tech.
Oui, les civic tech ou les technologies civiques, c'est une façon de redonner du souffle à la démocratie. On l'a vu, hein, l'année écoulée a marqué un tournant dans l'usage des technologies civiques. On l'a vu hein, lors du débat démocratique, lors du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est en quelque sorte repenser la démocratie à travers des outils numériques. Et ces outils, ce sont donc les civic tech.
Nous avons une première question sur Twitter.
Oui, Marc, hashtag Europe 1, qui nous dit « Le digital est au cœur de vos outils pour guider les électeurs dans leur choix. Selon vous, le vote digital à distance arrivera-t-il un jour ?»
Ah, bonne question. Qui veut répondre ? Stéphane Boisson ?
Oui, on a déjà des technos qui sont développés sur ces questions-là. Aujourd'hui, vous avez des bornes de vote qui peuvent être aussi envisagées, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être même le développement de stratégies de consultation des électeurs entre deux élections aujourd'hui. Et il y a un véritable enjeu, à mon avis, sur ce que Dominique Rousseau, qui est un prof de droit constitutionnel, appelle la démocratie continue. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement dans la prise d'une photographie, un instantané, dans la démocratie représentative.
Ça signifie que pendant le mandat, on pourra ajuster le curseur,
exactement.
C'est ça ? Si effectivement la population a le sentiment qu'on ne va pas dans le bon sens, elle pourra le dire ?
Alors, c'est aussi la loi qui le permet, puisqu'on a des référendums d'initiatives locales qui peuvent être mises en place. Et je crois que dans l'actualité aujourd'hui, pouvoir consulter les citoyens entre deux élections, renforcer ce lien dans la durée avec eux et pouvoir mettre en place des processus de consultation réguliers est un vrai sujet. Enfin, vous constaterez avec moi qu'il y a un besoin, une appétence très forte aujourd'hui sur cette question démocratique, en dehors même du champ des élections proprement dit.
Vincent Mansoni, vous avez le sentiment qu'effectivement le digital est de plus en plus présent aujourd'hui ?
Le digital permet aux élus, effectivement, à n'importe quel moment du mandat, d'interroger les électeurs, de recueillir un plus grand nombre d'opinions et de les traiter plus intelligemment, plus rapidement, plus automatiquement. Donc effectivement, les élus vont avoir plus d'outils qu'avant pour avoir une idée claire de l'opinion des électeurs de leur ville à l'instant T.
Plus d'outils dont ils se servent ?
Il y a beaucoup d'outils. Les élus se servent de plus en plus de ces outils. Ça prend un petit peu de temps. À titre d'exemple, vous voyez, nous, on avait fait 20 campagnes municipales en 2014. Cette année, on en fait 200. Donc, il y a une progression.
Gauthier Schweitzer.
Oui, tout à fait. Pour moi, le digital, effectivement, prend une place croissante, mais aussi pour des aspects négatifs. On a beaucoup parlé fake news sur Twitter. Oui. On a vu le rôle des réseaux sociaux, notamment avec l'affaire Griveaux. Donc à nous aussi, Civic Tech ou associations comme la nôtre, d'essayer de montrer que le digital, que le numérique peuvent servir la démocratie et la nourrir plutôt que la détruire.
Oui, on fera bientôt, d'ailleurs je le précise ici même, hein, une émission consacrée à la e-réputation, puisque c'est un des enjeux aussi pendant les élections. Catherine, vous aviez des questions ?
Alors j'avais une question par rapport au coût d'entrée, par exemple, de Digital Box en l'occurrence, parce que c'est vrai que quand on est maire, par exemple, qu'on veut se faire élire, on ne connaît pas forcément les outils digitaux, on n'a pas forcément les moyens quand on est dans une petite collectivité. C'est quoi votre coût d'entrée ?
La vérité, c'est que tout le monde a les moyens. C'est accessible à partir de 19 euros par mois. Donc nous, ça a été l'une de nos missions. En tant que Civic Tech, on considère qu'on est un outil, une société à utilité publique. Donc la première mission, ça a été de rendre accessible à tous les élus du territoire la solution. Donc effectivement, même quand vous êtes, d'ailleurs j'en parle souvent, j'ai une cliente qui est une maire d'un village de 250 habitants. Voilà. Hein, pourquoi ? Parce qu'elle communique aussi sur son canton. Et le canton, c'est déjà 24 000 habitants. Donc comment vous faites quand vous n'avez rien ? c'est très difficile. Donc vous prenez effectivement ce genre d'outils pour vous réarmer et pouvoir communiquer sur des territoires un peu plus grands.
Stéphane Bosson.
Oui, la question du coût est un élément extrêmement important. Dans notre cas, en fait, on a un coût qui dépend de la population légale. Mmh. Donc, si on est sur une toute petite commune, et ce qui est le cas aussi pour nous, alors on a un peu plus d'habitants dans cette petite commune, on est autour de 800 habitants, à 16 centimes l'habitant, vous voyez, ça ne fait pas un coût énorme, évidemment, en termes d'utilisation.
Vous avez le sentiment que les choses vont encore beaucoup évoluer d'ici les prochaines échéances électorales. Vous disiez 20 il y a peu de temps, aujourd'hui 200. Finalement, tout le monde va s'emparer de ces outils digitaux aujourd'hui pour en faire une arme supplémentaire et pour être aussi davantage en proximité avec les électeurs, Gauthier Schweitzer.
Oui, je pense que c'est un outil qu'on doit mettre à disposition, mais tout en prenant garde de ne pas exclure certaines populations, puisqu'on sait que les personnes âgées ou des gens qui sont moins appétents à la technologie que ne peut être notre génération peuvent se retrouver exclus de ces consultations-là. Et c'est ce qu'on avait remarqué aussi dans le grand débat. La plateforme en ligne n'avait pas accueilli exactement les mêmes profils que les gens qui avaient contribué en mairie. Donc encore une fois, la numérisation propose des solutions, mais aussi des nouveaux défis à saisir.
Stéphane Bosson, Vincent Monceny.
Oui, je pense que ces outils vont devenir des standards pour différentes raisons. On a parlé du RGPD, ça veut dire que maintenant, effectivement, on ne peut plus travailler n'importe comment sur une feuille Excel, sans noter les consentements, sans eurodater les contacts, sans gérer la portabilité. Il y a plein d'obligations. Les élus, les collectivités, les associations, ils sont toutes tenues, qu'elles soient petites ou grandes. Donc déjà, il y a un impératif légal. Et après, il y a une telle facilité avec des outils très faciles à prendre en main et on vient de le rappeler, qui sont très peu chers. Donc pourquoi s'en priver ?
Oui, et puis ce n'était pas le cas quand on avait une feuille et un stylo. Hein. Là, pour le coup, on passait à côté des lois très, très facilement, Stéphane Bosson.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la question du contrôle aujourd'hui de l'utilisation des données personnelles est un vrai enjeu. Ce d'autant plus que ça a une valeur très forte dans la relation qu'on a avec les électeurs. C'est-à-dire que si vous rompez le lien de confiance que vous avez vis-à-vis de l'utilisation de ces données-là, en fait, ça n'a aucune utilité d'utiliser ces données-là. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, quand il y a des contrôles qui sont faits par la CNIL, nous on l'a vécu de la cave au grenier.
Oui.
Hein, on a reçu notre lettre de clôture d'instruction vendredi dernier en disant que tout allait bien. Je peux vous dire que sincèrement, on veille, que ça soit dans l'architecture des données, on appelle ça du privacy by design, mais aussi dans le travail que l'on fait dans la solution pour faire le lien et l'entretien de ces données-là, il est extrêmement important de veiller à cette protection-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un élément de la démocratie extrêmement important. Ce qui est d'autant plus important aussi, c'est qu'on a un effet de génération dans le champ politique énorme. En fait, arrive sur le champ des compétences politiques, des mandats politiques et des élections, aujourd'hui, des candidats qui ont une très forte appétence pour le numérique. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent avec le numérique dans leur activité professionnelle pour pas mal d'entre eux, et qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'outils pour prendre des décisions, c'est un vrai sujet. Piloter aujourd'hui une collectivité territoriale, ça ne peut plus se faire au doigt mouillé. Ça doit se faire aujourd'hui avec les bons outils.
Et je précise, puisque nous parlions des élections municipales, que Europe 1 sera en capacité de vous offrir une application Europe 1 qui sera disponible dès le 15 mars sur Alexa et sur Google Home. Europe 1 qui est le premier média à faire une application vocale de ce type en France. Vous n'avez plus que quelques jours à patienter pour la découvrir. Merci messieurs d'être venus nous parler de ces nouveaux outils aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
Elle existe depuis 1962, mais elle est liée à la grande histoire, la Sablaisienne, et d'ici quelques minutes, l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Et dans la France bouge, Raphaël, c'est l'heure de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, Céline, c'est la Sablaisienne. Bonjour Amélie Loret.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. La Sablaisienne, c'est une biscuiterie. Et alors, je le disais, elle est liée finalement à la grande histoire de France, puisque si on remonte en 1670, Madeleine de Souvre, la marquise de Sablé, va amener à la cour des petits biscuits ronds qu'elle avait, je crois, l'habitude de servir quand elle tenait salon, c'est ça ?
Exactement. Madeleine de Souvre, marquise de Sablé, c'était une grande mondaine qui avait deux passions. Les Maximes, c'était une contemporaine de La Rochefoucauld, mais aussi la gourmandise. Et on dit, son amie, la marquise de Sévigné qui raconte ses mémoires, dit que c'était effectivement une femme qui était folle de friandises. Elle tenait école de friandises.
Donc elle ramène ses petits sablés ronds à la cour, et c'est le maître d'hôtel Vatel, célèbre maître d'hôtel évidemment, qui va lancer finalement le biscuit.
Oui, c'est ça. En fait, on a deux ambassadeurs à la Sablésienne, la marquise de Sablé et Vatel, puisque c'est effectivement Vatel qui va servir au frère du roi, le prince de Condé, des petits biscuits secs et ronds que lui a apporté la marquise de Sablé. Et le prince de Condé va demander chaque jour à son lever qu'on lui serve des petits sablés. Et le terme sablé, finalement, ne provient pas, comme on peut l'entendre parfois, de la pâte un peu sablée, granuleuse, mais en fait de la ville de Sablé et de ses petits sablés emblématiques. Donc nous avons une très belle histoire grâce à cette marquise de Sablé qui est effectivement, comme vous le disiez, un personnage historique.
Alors ensuite, on perd un petit peu la trace de l'histoire des sablés dans la grande histoire, mais on va la reprendre en 1962 puisque Georges Justier va leur redonner vie, il remet au goût la recette ancestrale qui est restée hein, quand même à Sablé-sur-Sarthe.
Exactement. À Sablé-sur-Sarthe, il y a toujours eu, tous les pâtissiers ont eu leur recette de petits sablés parce que c'est la ville de Sablé. Mais Justier était un pâtissier lui aussi qui livrait ses petits biscuits en vélo et un jour il s'est dit maintenant à Sablé il n'y a pas de biscuiterie, je vais créer une biscuiterie.
C'est comme ça que la Sablésienne
voilà,
est née.
Exactement. Elle s'est appelée Biscuiterie Justier et puis effectivement, petit à petit, c'est devenu la Sablésienne.
Alors vous arrivez en 2003 et faut dire que le Sablé et vous, c'est une histoire d'enfance parce que dès l'âge de 6 ans, finalement, vous avez baigné dedans. Votre arrière-grand-père, si je ne me trompe pas, était pâtissier et vous êtes fille de biscuitier.
Voilà, mon père en fait dirigeait Gringoire Brossard. Donc petite à Pithiviers, je courais déjà de temps en temps quand j'allais voir mon père sur les lignes qu'il fabriquait, qui sentaient bon le petit biscuit et le beurre frais. Et puis, et c'est très drôle, la vie est bien faite, la Sablésienne a appartenu dans les années 70 à Gringoire Brossard. Et voilà, de fil en aiguille, à un moment, en 2003, alors que j'avais fait du droit et que je n'étais pas du tout destinée à une carrière dans l'agroalimentaire, j'ai repris effectivement la Sablésienne.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes revenue à ces premières amours finalement ?
Eh bien, parce qu'on m'a effectivement proposé de venir voir cet atelier qui était un petit peu en désuétude avec un pâtissier à l'époque, un maître pâtissier qui était là, qui faisait toujours ses petits sablés, deux personnes au conditionnement, un atelier qui sentait bon le beurre frais, mais il n'y avait plus que 10 clients, donc il fallait apporter de la dynamique et je me suis dit mais pourquoi pas.
Oui, et c'est ce que vous avez fait, apporter de la dynamique, parce qu'aujourd'hui, la Sablésienne est présente dans 15 pays, vous êtes distribuée dans 400 points de vente en France, il y a 6 magasins en nom propre évidemment dans l'ouest du pays. On vous aime particulièrement du côté du Japon, non ?
Alors effectivement, il y a une histoire d'amour entre la Sablésienne et le Japon. Et les Japonais, puisque la Sablésienne a aussi une force, c'est on crée tous nos designs en interne. Alors on essaye de faire vraiment les meilleurs sablés avec la tradition de la marquise de Sablé, mais aussi de les emballer le plus joliment possible. Et ça, ça a beaucoup plu à nos clients japonais. Et de fil en aiguille, depuis 2007, effectivement, on a une relation intense avec le Japon, puisqu'on a maintenant 4 points de vente au Japon, dont une boutique à Kyoto et des 3 corners en permanent à Tokyo.
Que dit notre coach ?
L'histoire est incroyable. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit tenir école de friandises.
Ah oui.
Je trouve ça très poétique. Je ne connaissais pas en l'occurrence cette internationalisation en fait. On peut commander en ligne, on peut regarder, on peut visiter votre entreprise aussi. Est-ce
qu'on
voit
tout ça effectivement. On a passé le cap du digital heureusement et on peut évidemment commander en ligne, mais on peut aussi pousser la porte de notre atelier de fabrication et venir découvrir non seulement la fabrication des biscuits, mais aussi du chocolat. Et comme on a beaucoup de succès dans cette partie, ouvrir les portes, parce que ce qui était important aussi pour nous, c'était de montrer notre savoir-faire.
Oui, parce que vous ramassez toujours les biscuits
exactement
à la main.
On veut garder cette touche artisanale. fait comme à la maison, c'est simplement un grand four avec des plaques de métal qui sont prises une par une et c'est ramassé à la main. Et ça, pour nous, c'est assez important aussi de montrer aux jeunes générations qu'on peut faire du très bon avec aussi cette caractéristique, cette touche artisanale.
Et oui, parce que le sablé, depuis 1989, il est entré dans les livres d'histoire, hein, si j'ose dire, puisque il fait partie du patrimoine culinaire français. C'est
exactement.
Important de le dire. Mais vous l'avez réinventé parce que chaque année, vous essayez de mettre une nouveauté. Vous avez notamment sorti des sablés à l'abricot.
Voilà, nous avons sorti des sablés à l'abricot cette année qui ont été primés par Business France à l'ISM. Nous avons également chaque année, il nous tient à cœur d'innover, par exemple, depuis. Alors, on a été très précurseurs dans le bio, puisque depuis plus de 25 ans, nous fabriquons des biscuits biologiques. Donc, c'est aussi pour nous important d'être dans une certaine éthique et d'avancer et d'être à l'écoute de nos consommateurs et de nos clients, que ce soit en France ou au Japon ou dans les 15 pays où nous exportons aujourd'hui.
Et c'est aussi la raison pour laquelle vous mettez de moins en moins de sucre, évidemment, dans vos produits. C'est la Sablésienne. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette très belle histoire aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Catherine Testa qui était notre coach. À bientôt, Catherine. Les filles, Céline, Elisabeth,
demain,
on se retrouve demain, midi, sur Europe 1 pour La France Bouge.
À demain, Raphaël Duchemin. C'était La France Bouge avec BNP Paribas. Vous voulez créer votre entreprise ? BNP Paribas est à vos côtés pour lancer le projet auquel vous croyez. Rendez-vous sur lancez-vous.bnpparibas. Dans un instant, vous retrouverez Christophe Ondelatte pour le deuxième épisode de sa série de 4 numéros spéciaux consacrés au combat de Robert Badinter. Alors on reste sur Europe 1.